Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Herings et Thibaut Van der Werve. Au programme, l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer. C'est parti. Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast saison 2 épisode 18. Salut Thibaut.
Salut Guillaume.
Comment tu vas aujourd'hui ?
En pleine forme.
Comme à chaque fois ?
Pas du tout fatigué.
Pas du tout fatigué alors que tu reviens à peine de Paris. C'est limite tu sors du Thalys quoi.
Presque.
T'as pris quoi ? T'as pris un Thalys Easy ? Comment ça s'appelle ?
Bah oui,
encore
Easy,
le...
c'est moins
easy
cher.
Easy Thalys. C'est combien encore si tu réserves à l'avance ?
Ça dépend, il y a plusieurs tarifs, mais
en général.
On va vraiment parler de tous les tarifs.
Oui, hein, vas-y.
Il y a des... 100 sièges, c'est 10 euros.
Okay.
Avec un strapontin, c'est 15, et puis je crois qu'il y a des places à 25 ou 30.
D'accord, voilà. D'accord.
C'est donc toujours une heure et demie ou pour, non, non, c'est 2h20.
Ah, il fait une pause, ok.
Non, il ne fait pas de pause, mais c'est juste que c'est un peu plus long. Quoi.
Oui, c'est ça.
Okay. Voilà. Mais, voilà. Mais tu fais l'aller-retour pour le prix d'un aller en Thalys.
Voilà. Thalys, si vous voulez sponsoriser cet épisode, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, on a un programme de 4 films. La semaine passée, il y en avait 3. Cette fois-ci, il y en a 4, mais bon. Le quatrième, on va le mentionner rapidement. Tu m'avais dit que ce n'était pas nécessaire de s'attarder dessus pendant 20 minutes.
Oui.
Le premier film dont nous allons parler, pardon, c'est La Mule ou The Mule de Clint Eastwood.
La Mule.
La Mule.
La Mule.
La
non,
Mule.
Tu le dis en français ou en anglais, mais tu le dis pas en franglais.
La Taule. Non, ok. The Mule, pardon. De Clint Eastwood, qui est peut-être son dernier film, non ? J'avais vu ça un peu dans l'actu. Il y avait un peu des soupçons comme quoi il n'allait plus faire de film après.
Ouais, on ne sait jamais avec
on
Clint.
On sait jamais avec lui. Oui, c'est ça. Donc, The Mule.
Il peut claquer à n'importe quel instant.
C'est ça. Double Vie, un film français avec Guillaume Canet, si je ne me trompe pas. Ben Is Back, film avec Julia Roberts et également Lucas Hedges, qui est un comédien montant. Hein, on n'arrête pas de parler de lui, en tout cas ces derniers temps. Et le fameux film où on va passer plus de 20 minutes, Les Petits Flocons. Voilà, c'est le programme de la semaine, comme toujours, très éclectique. On commence tout de suite par le box-office. On ne change pas une équipe qui gagne. Le premier film en France, c'était Creed 2. Avec 500 000 entrées, pour maintenant avoir un cumul de 1 333 000 entrées. Décidément, c'est très précis. Deuxième film, c'est Glass, le nouveau film de M. Night Shyamalan.
Bien.
Oui, hé, hey, oh, t'as vu ça du premier coup. Ouais. 430 000 entrées pour sa première semaine en France. Les Invisibles est troisième, avec 310 000 entrées. Ça fait un cumul de presque 700 000 entrées. Donc, un très bon score pour ce type de film. Quatrième film, tu dois m'en parler parce qu'on n'en a pas parlé, L'incroyable histoire du facteur cheval.
Ah oui, mais c'est pas sorti chez nous, ça ne sortira pas.
Okay. D'accord.
Écoute, tu connais le facteur cheval ?
Eh ben
c'est,
non.
C'est ce facteur qui... C'est son nom, un cheval. Il s'est construit une espèce de palais avec des cailloux au fond de son jardin. Un truc... Alors je te montrerai bien une photo là comme ça, mais... pas très visuel la radio. Et donc ouais, il prenait des cailloux sur son chemin, sur sa tournée, tu vois, et puis il s'est fait un petit okay. palais comme ça, pépère. Alors un palais, c'est pas, c'est plus un petit truc. Enfin, c'est pas pour les enfants non plus, mais c'est pas un super beau palais comme
Mission Cléopâtre par exemple.
Voilà, c'est ça. Non, c'est un petit truc avec des pierres et du mortier, quoi, tu vois.
D'accord.
Mais c'est très joli. J'ai eu l'occasion d'aller le voir il y a quelques années. C'est très sympa, c'est très touristique, voilà, c'est...
Ok, mais donc il y a un film là-dessus qui est sorti apparemment en France la semaine passée.
Bah ouais.
240 000 entrées, c'est pas mal pour une histoire comme ça, parce que c'est un peu passé inaperçu.
C'est pas dégueulasse.
Cinquième film, c'est Aquaman, on ne le présente plus. 175 000 entrées pour ce film-là, qui maintenant dépasse les 3 millions d'entrées en France. Je sais que ça te réjouit, Thibaut.
Complètement.
Complètement. Passons directement à du bon cinéma, en tout cas du cinéma presque historique, hein, parce que je pense que Clint Eastwood, on peut dire, rentre dans l'histoire du cinéma. Il est déjà rentré depuis longtemps, hein, mais il termine sa carrière quand même en force, parce que même s'il n'a pas réussi son dernier film, qui était le Train pour Paris, là.
Le 15-17,
le 15-17 pour Paris. Qui n'était pas réussi, hein, c'était d'ailleurs dans les pires films de l'année.
C'était une bonne grosse daube.
Bonne grosse daube, bah, il avait quand même ces derniers temps sorti 2-3 perles, hein, il y avait entre autres Gran Torino, et maintenant, en tout cas beaucoup de gens en parlent, The Mule, de Clint Eastwood avec Clint Eastwood, peut-être son dernier film je le rappelle, avec entre autres aussi Bradley Cooper au
pas,
casting, mais... Laurence Fishburne, Diane West et Thaisa Farmiga, tout un beau monde, il y a aussi Michael Peña, patati patata, tout un gros casting, et ça raconte un peu... Un peu comme le film avec Tom Cruise où il transporte des marchandises au nord et au sud de la frontière aux États-Unis.
Oui, enfin, c'est pas...
C'est pas la même chose que... Comment ça s'appelle encore ?
C'est pas complètement Barry Seal. Ça non plus, mais oui, Barry Seal.
Non, mais en gros, c'est une personne âgée de 80 ans, jouée ici par Clint Eastwood, forcément, qui décide d'accepter un boulot.
Il n'y a pas 80, il a dans les 80 ans. Mais Clint Eastwood...
Dans les 80 ans.
Maintenant, il est plus près des 90 que... Des 90 que des 80. Hein.
Donc, il est fauché, il est seul, et son entreprise va être saisie, c'est un peu ça. Et donc, il accepte un boulot, qui en apparence... ne lui demande que d'être chauffeur de taxi, hein. On est presque dans Collatéral ici.
Complètement.
Sauf que, bah, sans le savoir, il est engagé à être passeur de drogue, c'est ça.
C'est complètement ça.
Et vu qu'il a sans doute le physique d'un homme tout à fait honorable, bah, ça passe plutôt bien.
C'est l'idée.
Mais je suppose qu'il t'y soit d'oblige, que ça va partir un peu en sucette tout ça.
À partir en sucette, c'est vite dit. Disons... Rapidement après le début du film, j'ai su comment ça allait se terminer. Et c'est pas un... Moi, j'estime que ça serait même pas un spoiler de dire ce qui se passe à la fin. Parce que,
non.
Très clairement, je trouve que c'est même pas l'objet du film, en fait. On s'en fout limite un petit peu de cette histoire de mule. Parce que c'est plus un prétexte, un contexte qu'autre chose. Je trouve que c'est pas du tout le sujet, en fait. Pour moi, le sujet du film, c'est plutôt toutes les relations humaines du personnage, donc qui s'appelle Earl. Pendant toute sa carrière, il a délaissé complètement sa famille. Il s'est quasiment uniquement occupé de sa carrière de ses fleurs, parce qu'il est horticulteur. Son boulot, ouais. Il n'était pas là au mariage de sa fille, tu vois. Oui, et là, maintenant, à 88 ans, il se dit qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?
Attends. Donc, il s'occupe de fleurs et il n'est pas là au mariage de sa fille.
C'est ça, ouais.
C'est con, quoi.
Ah, bah.
C'est le comble.
Oui, à la place, il était à un bingo avec ses amis horticulteurs ou je ne sais pas quoi, ou ses amis 3x20. Et voilà, donc il n'était pas là au mariage de sa fille. Et il a à peu près tout loupé. Et là, maintenant qu'il est pas loin de claquer. Bah, il se dit merde, j'étais quand même pas très là.
Les regrets.
Bah oui. Et j'étais pas très présent pendant l'enfance de ma fille, etc. Et même plus que son enfance. Et donc il essaye un peu de se rattraper auprès de sa petite fille. Bon, sa fille lui parle plus depuis 15 ans. Évidemment, il est divorcé avec sa femme, enfin son ex-femme du coup. Mm-hmm. Donc c'est compliqué, quoi. Et au moment où le film démarre. C'est la banqueroute, effectivement il n'a plus d'argent, donc tout est saisi, ses terres, etc. Donc il n'a plus de boulot, il a juste son vieux camion, son vieux pick-up et c'est tout. Effectivement, il va faire cette rencontre.
On lui propose un job, quoi.
Voilà, on va lui proposer un boulot, lui dire, voilà, tu te pointes tel jour à telle heure à tel endroit, on va te mettre une marchandise dans ton coffre, tu ne regardes pas ce que c'est. Tu te conduis jusqu'à tel endroit, tel parking de motel, tu laisses tes clés, tu sors, tu reviens une heure plus tard, et voilà.
C'est tout. Il n'en sait pas plus sur la transaction.
Non, oui, c'est ça. Il n'en sait pas plus. Effectivement.
J'ai cru comprendre qu'il y avait un agent de la DEA là, qui va s'en mêler un petit peu.
Bah oui, bien sûr.
C'est Bradley Cooper qui
joue. C'est Bradley Cooper qui joue l'agent de la DEA. Son patron, c'est Lawrence Fishburne, et son acolyte, c'est Michael Peña. Donc une bonne petite équipe de bras cassés à la poursuite du vieux Clint. Mais comme je le disais, c'est pas du tout l'objet principal, enfin le sujet principal du film. C'est vraiment, moi je trouve que c'est un film de relation en fait, vraiment entre ce vieux type et sa famille d'une part, mais il y a aussi les relations qu'il va entretenir avec les membres du cartel qui vont s'occuper de lui, parce qu'il va être un peu babysité, autant pour les deux, trois premiers trajets, il va être laissé tout seul, mais par la suite, il va être un peu babysité parce qu'il se rend compte que ce gars-là, finalement, il n'est pas du tout suspect. Je veux dire, qui se douterait qu'un gars de quasi 90 ans est passeur de drogue ? Personne. Du coup, ils peuvent se permettre de lui mettre de plus en plus. Et donc, c'est le type qui devient le plus rentable pour eux.
Oui.
Donc, il va gagner une place, je ne vais pas dire importante, il va rester juste passeur, mais... C'est un peu le passeur de luxe, c'est celui dont il ne faut pas qu'il lui arrive quelque chose, tu vois.
Une des questions du film va sans doute être, est-ce qu'il va s'investir dans ce nouveau travail autant que dans son travail précédent, et donc du coup de continuer à délaisser sa fille et...
Disons qu'il va essayer de compenser avec toute la thune qu'il va se faire.
Du cash.
Ben, il va
arroser,
il va payer les travaux de réparation du club des 3x20, ou des clubs des vétérans. qui a subi un incendie, il va payer le buffet au mariage de sa petite fille, enfin voilà, ce
il
genre
un
de
peu
choses.
Bienfaiteur, ouais, c'est ça.
Donc il essaie de compenser comme il peut, mais tu rattrapes pas
de l'absence.
60 ans d'absence comme ça. Donc
non.
Voilà. Vraiment, alors évidemment, si vous avez un minimum de jugeote, vous savez ce qui va se passer à la fin. Mais moi, à nouveau, ça ne m'a pas gêné parce que je l'ai vu venir très vite. Ça ne pouvait pas...
Ne le dis pas.
Voilà. Donc, ce qui compte vraiment, ce sont vraiment toutes ces relations qui gravitent autour du personnage. Va y avoir une rencontre un peu infortuite avec l'agent du FBI qui le poursuit, donc le personnage de Bradley Cooper. Ils vont avoir une discussion dans un diner américain, ils prennent une
typique.
Tasse de café, machin. Évidemment, Bradley Cooper ne se doute absolument pas que le vieux en question, bah, c'est lui qu'il cherche en fait. Et donc,
oui.
Parce qu'ils ont des indices, ils savent un peu quel type de voiture, ils savent qu'il y a un pick-up noir qui est impliqué dans le bazar et tout. Donc ils surveillent certains mouvements. Mais voilà.
Mais ils ne surveillent pas le vieux de 80 piges avec son café.
Voilà, voilà. Et donc, ils ont une petite conversation un peu profonde, assez intéressante. Je trouve que c'est une très belle scène. Il y a pas mal de scènes comme ça qui sont très touchantes, qui vraiment m'ont pris. J'étais happé par ces scènes-là. Ça m'a complètement convaincu. Je pense que ça peut aussi faire pleurer dans les chaumières.
Carrément.
Clairement.
Ouais, donc, ouais. En termes de mise en scène, il a élevé son niveau depuis son film précédent.
Oui, depuis le précédent. Oui, mais c'était pas tant la mise en scène, le problème dans le précédent, c'était tout.
Tout
qui était problématique.
Okay, bah donc dans
ici,
ce cas-ci,
on retrouve du Eastwood plutôt style Gran Torino.
Ah oui, carrément.
Le gars un peu aigri quand même, un peu mauvais caractère, un peu raciste borderline.
Oui, il joue Clint Eastwood, quoi, un peu comme dans Gran Torino.
Enfin, genre, dire le mot nègre, pour lui, c'est pas plus choquant que ça, quoi, tu vois.
Oui, oui.
Il y a une petite scène un peu cocasse. Enfin bon, voilà, il y a pas mal de choses assez intéressantes. Mais ce que j'aime beaucoup aussi au niveau de la mise en scène d'Eastwood ici, c'est que il prend son temps, il a rien perdu de son sens du rythme. Et il donne beaucoup plus de temps parfois à certaines scènes. Il n'hésite pas à ajouter des petits plans où la voiture roule, etc. Vraiment pour installer des espèces de
ouais.
temps mort, mais... Et ça participe aussi à la dynamique générale du film, quoi. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié ici, alors que dans le précédent, moi, je trouve que c'était complètement raté. Enfin, comme je disais, il n'y avait rien qui fonctionnait dans ce film-là. Donc ici, il y a quelque chose d'un peu plus classique dans sa forme, dans le fond aussi, hein, très clairement. Mais alors, je ne connais pas tous les films de Eastwood, très honnêtement, ça serait mentir que dire le contraire, mais... Je trouve que c'est un des films les plus aboutis d'un point de vue relationnel. Dans Mystic River aussi, il y avait quand même beaucoup de choses très fortes, mais
oui.
Ici, j'ai l'impression qu'il va dans des directions dans lesquelles il n'allait pas forcément auparavant. Vraiment, ça m'a beaucoup touché, donc j'en attendais. Si, j'attendais un peu le film, parce que je me suis dit, bon, après le 15-17 pour Paris, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Et là, il parvient quand même à sauver les meubles et à faire plus que sauver les meubles, faire vraiment un très beau film, assez puissant. Et c'est peut-être ça qui est surprenant au final. On ne l'attendait peut-être pas
comme ça.
Aussi loin à ce niveau-là, en fait, le papy Clint. Donc voilà, vraiment une belle surprise. Et au niveau des comédiens, il y a sa fille qui joue dedans, Allison.
D'accord.
Celle qui incarne sa fille dans le film aussi. Donc ça, c'est assez sympa de voir ça. Thaïssa Farmiga, j'étais très content de la retrouver parce qu'elle était dans The Nun. C'était un très mauvais film. Donc,
oui.
Voilà, pas grand souvenir, mais c'est une très bonne actrice, je trouve. Donc j'étais assez content de la voir. Bradley Cooper, un peu plus en retenue, il était très bien aussi. Il n'a pas énormément de scènes non plus, mais vraiment très cool. Mais pour moi, il y a Andy Garcia aussi, j'allais l'oublier, le patron du cartel. On voit plus Andy Garcia quasiment au cinéma, donc c'était assez
non.
cool. Mais pour moi, la grande, grande surprise, c'était Diane Uest, qui est absolument sensationnelle dans ce film. Elle fait l'ex-épouse de Clint.
D'accord.
Et ouais, vraiment, elle était... Il y a des scènes entre eux deux qui sont vraiment dingues. Une très, très grande beauté, avec beaucoup de sensibilité aussi. Donc voilà.
Moi, qu'est-ce qu'on lui donne du coup?
J'ai été conquis, voilà.
Oui, si tu dis même que c'est presque un film qui peut faire pleurer.
Bon, avant de
pleurer, c'est
un bon 3 étoiles.
3 étoiles pour The Mule de Clint Eastwood, un bon petit retour quand même de Papi Eastwood.
J'irai pas plus parce qu'il a fait bien mieux que ça, très honnêtement. Moi, je trouve que Gran Torino lui est supérieur, Mystic River lui est supérieur, Impitoyable évidemment. Bref, oui, il a fait quand même quelques, il a fait du lourd, hein, Eastwood, faut pas oublier. Mais ici,
après le désastre
vraiment,
du film précédent, ça fait plaisir de voir qu'il revient peut-être à un truc plus classique, qui lui colle peut-être plus à la peau, mais qui fonctionne mieux.
Ah oui, je trouve qu'il n'est pas fait aussi bien depuis Gran Torino.
Bah voilà.
Alors, il y a des films que j'aime bien depuis Gran Torino, hein, style Invictus. Je sais que les gens ne l'aiment pas trop, mais oui. Bon, c'est un film que j'aime encore assez bien. Vraiment, de ce niveau-là, il n'avait pas fait... ça faisait un moment. Donc voilà, un bon retour en forme pour Papi Clint Eastwood.
Papi Clint Eastwood. On enchaîne tout de suite avec...
Que j'ai eu l'occasion de...
De rencontrer une fois ?
Non, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Mais lors de mon petit week-end à Paris, j'étais à l'expo Sergio Leone à la Cinémathèque.
D'accord.
Bon, alors maintenant, on va publier ce podcast mardi. Il ne restera plus que 5 jours pour aller voir l'expo.
À Paris.
À Paris. Hein.
Et mais vu qu'on a beaucoup d'auditeurs
si vous
français...
êtes à Paris et que vous n'avez pas encore vu l'expo Sergio Leone, franchement, courez-y parce que ça vaut la peine. C'est hyper intéressant, on découvre vraiment plein de choses. Enfin, on découvre quand même des choses sur Sergio Leone, évidemment. Il parle, il y a des extraits vidéo, des archives de lui qui parle de certains cinéastes comme John Ford, etc. C'est vraiment très très intéressant, une chouette scénographie. C'est pas hyper long, mais c'est rarement long à la Cinémathèque, donc voilà. Mais voilà, franchement, ça vaut la peine. Donc petite expo ciné de temps en temps, c'est bien aussi.
Mais écoute, en voilà de bonnes nouvelles.
Ben oui.
Passons tout de suite à un autre registre, un registre que j'affectionne tout particulièrement, c'est la comédie. Puisque la semaine passée, il y avait le festival de l'Alpe d'Huez, donc le festival de comédie de l'Alpe d'Huez, où il y avait entre autres des avant-premières juteuses, hein, n'est-ce pas, comme Nicky Larson.
mais il n'y avait pas nous. Hein.
Oui, il n'y avait pas nous, il n'y avait pas nous pour ce coup-ci.
On ne fait pas un big up à l'équipe du festival qui nous a jamais répondu.
C'est vrai, ils ne nous ont pas répondu, mais bon, d'un côté...
Non, aucune excuse.
Aucune excuse.
Quand alors, presse, faut savoir que boulot, c'est tout. Voilà.
Si vous aimez les comédies françaises, c'est vrai que le festival de l'Alpe d'Huez, c'est souvent très populaire, très voilà. Mais le Grand Prix est souvent qualitatif. Alors attention, c'est rarement du 5 étoiles, hein, mais on a des films qui sont pour des comédies françaises très bons. Et cette année-ci, c'est le Grand Prix, c'est Mon bébé de Lisa Azuelos. Alors, qu'est-ce que c'est Mon bébé ? Ben, en fait, c'est un film où Sandrine Kiberlain joue une femme, forcément, qui voit ses enfants grandir et sa fille a dépassé l'âge de 18 ans. Et donc, elle va aller à l'UNIF, elle va partir un peu de la maison. Tu sais, ce côté un peu « Maman, ciao, merci d'avoir fait mon linge, je me casse.
On dirait moi.
Quoi ?
On dirait moi.
Exactement. Donc, un peu, tu sais, le moment un peu nostalgique pour les parents où on se dit « Tiens, mon bébé part, quoi. » D'où le titre du film. Et elle décide de faire un reportage à l'iPhone sur sa fille.
Oh, putain.
Oui, alors, ça peut paraître un peu casse-gueule. Mais bon, visiblement, le film a remporté le Grand Prix. Donc, c'est qu'il y a un certain fond. On a de découvrir tout ça. Et Sandrine Kiberlain a remporté le prix d'interprétation féminine. Donc, c'est pas rien pour ce film-ci.
Ça me fait quand même peur, cette histoire, parce que Lila Azuelos, c'est quand même pas la réalisatrice la plus intéressante, hein, on va pas se mentir. Hein.
Non, non, mais il y a un truc qui a... Enfin, moi, personnellement, j'aime bien le pitch. Le moment où elle prend son iPhone pour filmer sa fille, je l'aime un peu moins, mais on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'un film sur le fait qu'une maman voit sa fille qui part et que la relation, du coup, mère-fille n'est plus la même, c'est une dynamique intéressante à explorer. Le prix spécial du jury, je ne vais pas faire semblant que je connais ce film, hein, parce que ce serait un peu vous mentir. Les crevettes pailletées. Alors là, c'est un film, j'ai hâte de le voir, de Cédric Lagallo et Maxime Govard.
J'aime beaucoup le titre.
Ah oui, j'aime bien, c'est sympa.
Les crevettes pailletées.
Oui, c'est ça. Le prix du public Allociné, hein, pour ne pas mentionner quelqu'un, c'est Jusqu'ici tout va bien de Mohamed Hamidi. Alors,
je crois que c'est le film que tu attends le plus cette année, non ?
Non, quand même, il y a des films devant.
Ah
ouais ? Oui, oui.
Le film que tu attends le plus cette année, c'est pas un film avec Gilles Lelouch ? Tu me surprends, Guillaume. Hein, tu me surprends.
Non, non, honnêtement, à la base... Hein, à la toute base, je ne suis pas un grand fan de Gilles Lelouch et il m'a assez convaincu avec Le Grand Bain, mais... Le reste de sa filmo, je suis moins chaud. Jusqu'ici, tout
tu
va bien.
Tu dois pas le justifier, tu sais.
Mais je le dis parce que voilà, on en parle. On en parle et voilà, on se confie quoi, merde, on est là ensemble.
Je comprends.
Jusqu'ici, tout va bien de Mohamed Hamadi. Alors, Mohamed Hamadi, celui qui avait fait La Vache, qui avait remporté le Grand Prix il y a quelques années avec... Il y avait quoi encore dans ce film? Il y avait Wilson?
Il y avait Lambert Wilson.
Wilson, oui, qui jouait un bourgeois. Une...
Ouais, une petite apparition. Hein.
Il y avait Jamel Debbouze aussi. Et donc, l'idée, c'était une chèvre qui devait partir, je pense que c'est de l'Algérie.
Une chèvre, une vache.
Une vache, pardon, qui doit partir.
La chèvre, c'est l'autre.
Ça aurait pu être une chèvre. Une vache qui doit partir de l'Algérie pour aller à la foire agricole de France.
Au salon de l'agriculture, comme on dit. Hein. Et concept... c'est pas la foire de Libramont. Hein.
Oui, c'est vrai. Mais concept un petit peu débile, mais qui a donné un film assez sympathique. Plein d'humanité. Et ici, dans ce cas-ci, c'est vrai que ça a l'air un peu plus casse-gueule. C'est l'histoire d'un patron d'entreprise qui, sous peine d'avoir des problèmes financiers et tout, doit engager des jeunes de la cité. C'est un peu ça l'idée.
Il doit déménager en cité.
Il doit déménager en cité, tout à fait. Donc l'entreprise doit déménager et on va engager des gens que d'habitude, on n'a pas l'habitude d'engager. Oui, c'est vrai qu'en général, les entreprises, surtout que dans ce film-ci...
Pas très politiquement correct.
Non, mais
hein.
Gilles Lelouch a l'air d'être un patron, tu sais, très parisien,
de droite.
Protecteur. Oui, voilà, c'est ça. Et il doit en un coup ouvrir ses portes à des gens qu'il n'affectionne pas tout particulièrement dès le départ. C'est ça que je voulais dire.
Les clichés en...
Les gros clichés. Bah oui, ça surfe un peu sur la vague qu'on a ces derniers temps avec nos films de Monsieur Clavier. Mais qui a quand même remporté un prix à l'Allociné, donc pourquoi pas. On continue un petit peu. Il y a François Civil qui a le prix d'interprétation masculine pour Mon Inconnu.
Excellent comédien, François Civil.
Tout à fait.
Que j'ai hâte de le voir dans le Chant du Loup, ce film de sous-marin français
oui.
Qui apparemment est super bien, avec un gros casting. Hein. Il y a Mathieu Kassovitz oui. Dedans.
Omar Sy.
Omar Sy. Enfin, ça a l'air d'être
du lourd. Il y en a d'autres encore, mais j'ai oublié.
Je suis censé le voir demain, mais je pense que je ne pourrai pas, parce que j'ai une réunion au même moment. C'est triste. Je oui. Le vis assez mal, hein. Je tiens à le dire quand même.
Tu vis très mal. Mais écoute... De manière générale, en tout cas, l'Alpe d'Huez, si vous regardez le palmarès, parce que bon, il ne faut pas regarder le programme, parce que c'est vrai que sur le programme, il y a quand même 50% des comédies qui sont un peu limites, mais quand on regarde le haut du panier, en général, on a des bonnes surprises, donc si vous aimez les comédies françaises et que vous avez l'impression qu'il n'y a que les tuches, ben non, sachez que chaque année, il y a le festival de l'Alpe d'Huez et que vous pouvez trouver votre bonheur également. Voilà.
C'est joli.
Si vous aimez les comédies françaises, bien sûr. Si c'est pas votre truc, bon ben, passez votre chemin. Peut-être que vous allez aimer, par contre, Double Vie.
Ouf.
Ah.
Alors, si tu veux bien, je vais me prendre une petite gorgée de bière avant, avant de me lancer là-dedans.
D'accord. Alors, Double Vie, c'est un film de Olivier Assayas avec, entre autres, Guillaume Canet, Juliette Binoche et Vincent Nakaigne. D'autres personnes en plus. Hein, mais...
Et Nora Hamzaoui.
Et Nora Hamzaoui, tout à fait. Et donc, je vois très bien qui c'est.
Et Christa Terré.
Ok.
C'est les cinq rôles principaux.
Comédie romantique, on peut le dire. Comédie,
oui,
amour,
oui, si, on peut le dire.
Un petit mélange des deux.
Oui. Alors, parce que ce sont des couples qui vont se croiser, s'entrecroiser, se décroiser.
Personnellement, je trouve ça assez étonnant que Guillaume Canet participe à un film comme ça.
Non, ça ne m'étonne pas.
Sa filmo ces derniers temps était un petit peu améliorée. Enfin, c'était un petit peu amélioré, c'est vrai. Et là, donc c'est l'histoire d'Alain, la quarantaine, qui dirige une célèbre maison d'édition où son ami Léonard, écrivain bohème, publie des romans. Alors là, déjà, je suis déjà un peu inquiet. La femme d'Alain, Selena, est la star d'une série télé populaire et Valérie, compagne de Léonard, assiste vaillamment un homme politique. Ça pue un peu quand même comme synopsis.
C'est costaud.
Ça fait un petit peu le truc, tu sais, milieu parisien qui a écrit un film sur qu'est-ce que c'est d'être dans le milieu des éditions, des séries télé.
C'est exactement ça. C'est
ok,
exactement
ben voilà, ça. C'est très bien. Alors voilà.
C'est une espèce de petite critique. Déguisé du monde du cinéma en fait et de la critique cinéma qui se prend un petit tacle en partie mérité mais bon en même temps mais un peu ridicule quand même dans la figure en fait Olivier Assayas il prend vraiment le monde de l'édition comme une espèce de couverture pour pas aborder de manière frontale le monde du cinéma. Mais c'est du cinéma qui parle. Alors, du coup, le monde de la littérature, c'est un petit contexte sympathique parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir abordé de cette façon-là au cinéma. Mais à nouveau, c'est qu'un contexte. C'est pas du tout le sujet du film. Parce que le sujet du film, ce sont ces couples qui enfin, le titre, c'est Double Vie, donc je veux dire, chacun trompe son compagnon, etc. Enfin, tu vois le bazar. Hein. Et,
oh, yeah, yeah.
Et souvent, c'est encore plus cocasse parce que... Enfin, cocasse. Ouh c'est qu'il y en a un qui trompe l'autre avec style son meilleur ami, ce genre de choses. Tu vois, c'est pas juste un amant sur le côté. Non, c'est des petites histoires de tromperie assez, assez sympathiques. Il y a un truc qui m'a vraiment choqué à la vision du film. Donc, c'était à Venise. C'était l'image était dégueulasse.
Pardon, c'était à Venise,
hein? Oui, c'était en compétition à Venise. Hein.
Ah oui, ok.
Oui. Bah, c'est Olivia Sayas. Et Guillaume Canet, Juliette
ouais,
Binoche.
D'accord, mais bon, enfin, tu vois, ouais, vu le pitch et vu ce que tu m'en dis, c'est quand même un peu.
Ouais, mais non. En fait, l'image était vraiment dégueulasse. Ça donne l'impression que c'est filmé avec en pellicule et que ça a un petit grain. Enfin voilà. Mais c'était vraiment très 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 moche. Je dis pas ça souvent, surtout d'Assayas que j'aime bien au demeurant. Mais alors on nous a dit qu'en fait il y avait eu un problème de DCP machin. Enfin voilà, classique. Apparemment, c'est quand même pas beaucoup mieux.
DCP, pour
suite,
ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est
comme ça. Digital.
Tu veux dire le paquet, entre guillemets, ouais, avec tous les.
Mais on va pas se lancer
film.
Dans
oui,
non, Digital Cinema Pack.
Oui, voilà,
package.
Parce que si tu dis
on
DCP,
va pas se lancer dans,
pas.
Dans les explications techniques de ce qu'est un DCP, mais en gros, c'est ce qui permet
de projeter
le film. Okay. Voilà.
Donc c'était un problème technique. Voilà, d'après eux.
Ça, c'était l'excuse. Et donc. L'image était très moche. Mais c'est pas le plus important, mais vraiment, ça m'a choqué, donc je voulais le mentionner. En fait, tous les personnages ont tous des secrets, et c'est ça qui est légèrement amusant, c'est de voir ce qu'ils cachent à l'autre, etc. À part ça...
C'est Cluedo, quoi.
C'est assez pénible, c'est hyper verbeux, ça parle. Le personnage de Vincent Macken, il te fait des monologues, des discussions limite un peu tout seul. Enfin, je dis monologue, mais théoriquement, c'est des espèces de dialogues, mais il est quand même plus tout seul à faire la conversation. Mais donc voilà.
C'est un monologue.
C'est des espèces de monologues. Non, mais en fait, c'est comme si je te parlais, que tu étais censé me répondre, mais que je continue à te parler pendant des heures et des heures, tu vois, et que t'en places pas une. Et que, voilà. Donc,
ce qui arrive souvent dans cette émission, d'ailleurs.
Oui, bah oui, vu que tu vois pas les films, je dois parler tout seul.
pas tous.
Mais c'est vite assez pénible, et surtout, c'est pas très très intéressant, parce que c'est un peu vu, c'est un peu revu. Cependant, il y a une excellente blague dans le film.
Il y a un extrait.
Qui implique deux films, Star Wars 7, Le Réveil de la Force, et Le Ruban Blanc. Je n'en dirai pas plus, mais si vous allez voir ce film, si vous allez voir Double Vie, j'attends de nouvelles concernant cette excellente blague.
C'est une scène entière ou c'est juste une phrase comme ça qui pète ?
C'est une phrase, en fait, qui revient à l'une ou deux reprises par la suite, c'est assez drôle.
Okay.
Mais,
un running gag.
C'est une espèce de running gag. Mais c'est tout.
Okay.
Le film tourne en rond, ça raconte vraiment pas grand-chose, c'est très vite barbant, et en fait, t'as juste l'impression de voir des personnages qui débattent de culture pendant 2 heures, quoi. Il y a un moment, bon...
Mais si t'as envie de voir ça, tu regardes France 5 ou je sais pas quoi.
C'est ça, un documentaire, alors, tu vois, ou...
Arte.
Mais bon...
Bibliothèque Médicis aussi, ça c'est...
Ouais, et le problème, c'est que je trouve qu'il gère à moitié bien l'humour, au-delà de cette blague... Le problème, c'est que quand il tient un gimmick, il l'utilise mais jusqu'à la corde, quoi.
Okay.
Quand il sent qu'il tient quelque chose, ben ouais, il en
il
abuse un peu.
Il s'y attache.
Ouais, ouais, et donc ça fonctionne pas toujours très bien non plus, quoi. Comme on dit, les plus courtes sont les meilleures. Hein. Voilà. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait le potentiel pour faire quelque chose de vraiment intéressant et un peu plus piquant. Là, on a parfois juste l'impression que c'est une espèce de critique du monde du cinéma un peu gratuite, avec pas vraiment de remise en question. Il y a quand même des réflexions qui sont intéressantes dans ces débats culturels, bien sûr. Il ne faudrait pas non plus penser que c'est sans intérêt du tout. Mais ça s'attache à pas grand-chose, quoi. C'est un peu vain, donc... Je vais pas dire qu'il enfonce des portes ouvertes, mais c'est presque ça, quoi. Et le casting, bon bah, il est bon, mais ils m'ont pas.
Ils sont meilleurs dans d'autres films, c'est ça que tu veux dire ?
Ils m'ont pas convaincu, quoi.
Qu'est-ce que tu donnes du coup à Double Vie? Parce que sur cette note
mitigée, attends, quand même. À un moment, il y a. Que... Y a... Je tiens quand même à le dire. Il y a un personnage qui pense que Juliette Binoche est Juliette Binoche. Donc Juliette Binoche, elle joue un personnage dans le film qui a un prénom, un nom et tout.
Et quelqu'un arrive et dit vous êtes Juliette Binoche? Et elle dit bah non, c'est Stéphanie.
Dans mon souvenir, c'est quelque chose du style, ouais.
Ah, ok.
C'est pas exactement ça.
Ils sont tout
ça.
À fait conscients de qui ils sont.
C'est pas exactement ça, mais ils jouent du côté méta du film et c'est un peu. Bon. Ouais, ça va, on a compris. Hein, tu vois.
Ce serait un peu comme si des comédiens sortent du cadre, enfin tu vois, sortent d'un décor en plein milieu d'un film, quoi, tu vois.
Ouais, mais alors, tiens, j'ai déjà vu ça au cinéma, dans Ocean's 12, à un moment, Julia Roberts se fait passer pour Julia Roberts, et c'est très drôle, ça fonctionne à merveille, mais bon, il faut qu'il y ait quelque chose,
tu vois. Mais c'est différent, elle se fait passer pour quelqu'un. Là, c'est... Vous êtes Juliette Binoche?
Non, mais là,
what?
C'est...
Oui. Enfin, ça sort de nulle part, quoi.
Ouais, mais c'est vrai que dans Ocean's 12, voir Julia Roberts qui incarne un personnage qui va se faire passer pour Julia Roberts, c'était quand même assez drôle, tu vois.
Ouais, c'était drôle.
Là, ici, avec Juliette Binoche, c'est un peu...
Et puis, le film se prend pas au sérieux, tu vois. Le film
oui,
de base,
bien
se prend
sûr,
pas au sérieux.
Bien sûr.
Donc, c'est pas grave. Ici, non, ici, c'est quand même
ouais,
critique
ici,
artistique.
Il se prend un peu, voilà, prend un peu beaucoup au sérieux.
Ensemble.
Ce qui est pas... Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, il peut se prendre au sérieux, mais alors il faut faire ça un peu plus finement, tu vois. Et là, bon... C'est parfois un peu les gros sabots, quoi.
Ok.
Donc bon, un peu déçu.
Double Vie.
Une étoile.
Une étoile. Une étoile pour Double Vie.
Ouais, j'allais dire c'est cher payé, mais non.
Ouais,
attends,
une, étoile, attends,
une étoile. Une étoile. Restons corrects.
Restons courtois. Parlons maintenant des actualités de la semaine du cinéma. Il y en a eu plusieurs. Principalement des États-Unis. Hein.
Je me permettrai même d'en ajouter une, si tu veux.
Rajouter une, bah, pas de souci. On va commencer par la première.
Commencer par ça.
Ah oui, non, ok, vas-y.
Allez,
commence. Vas-y.
Bad Robot. Tu n'es pas sans savoir que leur deal avec Paramount, c'est
attends,
bientôt terminé.
Bad Robot, c'est donc la société de J.J. Abrams. Hein.
Exactement, la société
production
de J.J. Abrams.
Mission Impossible 3, etc. C'est entre autres
exactement.
Produit par Bad Robot.
Exactement.
Oui.
Ils ont un deal avec Paramount. C'est toujours Paramount qui distribue leurs films.
Oui.
Mais bientôt fini. Du coup, qui va racheter
Attends, on fait un guess. Netflix.
C'est pas annoncé.
Ah, ok.
C'est pas annoncé.
Hey. Ouais.
Mais du coup, les droits sont. Enfin, voilà.
Donc, Bad Robot, c'est production. C'est une société de production.
C'est
donc, ils font le film.
De production.
Par contre, pour distribuer, il faut maintenant qu'ils aient un nouveau partenaire, c'est ça?
Oui.
Ouais.
Alors, qui. Les gros qui sont sur la ligne de départ, ben, c'est Universal, évidemment. Parce qu'il y a quand même quelques accointances.
Pourquoi pas Disney?
Et Disney, évidemment, parce que
regarde,
JJ, regardes...
il est en train de faire Star Wars.
Exactement. JJ a fait 2 Star Wars, donc c'est dire qu'il a déjà un peu été fait des enfants dans le dos de Paramount. Bon après
non,
pour Paramount,
il a un rôle
il a
de producteur
fait,
ou pas sur
il a
Star
quand
Wars.
Même fait Star Wars. Il a fait Star Trek, il a fait Super 8, enfin Super 8.
Il aura fait du fric.
Il a fait pas mal de choses pour Paramount et il a relancé Mission Impossible, etc. Effectivement. Donc
oui, mais attends. Est-ce que
il a quand même bien utilisé le deal, mais c'est vrai qu'il a déjà été zioté du côté de Disney.
Est-ce
donc
qu'il est producteur sur Star Wars?
Oui, évidemment.
Oui, oui. Oui, ça pue, ça. Parce que s'il est producteur, il peut faire passer ça par sa boîte, s'il veut. Enfin, tu vois, éventuellement, donc oui.
Moi, je ne serais pas surpris que Disney rafle le bazar. Hein.
Oh,
et s'il rafle ça... Là, ça devient vraiment très très intéressant parce que Bad Robot,
en fait,
ils ont tendance quand même à produire pas mal de cinéma de genre. Cloverfield, etc. C'est eux. Hein.
C'est vrai que c'est une branche qu'ils n'ont pas Disney.
Ben non.
Voilà.
Et donc, en plus des princesses, des films d'animation.
De Fox.
De films de
mutants.
Fox maintenant.
Oui.
Il paraît que Dark Phoenix, c'est un four. Hein.
Oui, il paraît. On va parler en
plus. Les Marvel. Maintenant, s'ils ont Bad Robot dans leur giron,
oui.
Ça devient très intéressant. Ça devient très intéressant. Et forcément, ça veut dire contenu en plus sur Disney+. Hein.
Oui, bien sûr.
Et contenu en moins sur Netflix, Amazon, Hulu et tout le bazar.
Oui, on se le demande. Hein. On en a parlé la semaine passée. On peut en faire un épisode spécial, mais on va le faire sans doute. L'avenir des services de streaming, c'est vrai que quand Disney va lancer son service... Netflix a du souci à se faire parce que la force de frappe de Disney est 4-5 fois supérieure à Netflix.
Clairement.
Donc voilà, ça va être sympa de voir ce qui va se passer en 2020 parce que je pense que c'est pour 2020 la plupart des services.
Je pense.
Donc voilà, on verra.
Il y a Warner aussi et Sony qui seraient dans la course. Hein.
Oui, bon, ok.
Et peut-être que Netflix et Amazon pourraient faire des offres aussi, mais bon, je ne suis pas sûr que Netflix fasse ce genre de choses. Moi, je pense que les trois candidats les plus sérieux, c'est Universal, Disney
Et d'ailleurs, quand tu parles de Netflix,
et Warner éventuellement.
C'est pas du film, mais c'est de la télévision. Netflix a signé un deal avec Steve Carell et le co-créateur de The Office, version américaine, hein, pas version anglaise, pour une nouvelle série basée sur un propos de Trump qui disait qu'ils allaient créer une nouvelle division de l'armée qui va être la Space Force.
J'ai vu ça. Voilà. Et donc, ça pourrait être très drôle.
Ils vont créer, en fait, The Office, hein, la Space Force, dans l'espace. Et donc, c'est des gars qui sont payés pour être dans l'espace et attendre qu'il se passe quelque chose, mais concrètement, il ne se passe rien. Et Steve Carell serait un des chefs de cette opération.
Et Ricky Gervais serait impliqué là-dedans.
Non, il n'y a pas son nom qui est mentionné. Par contre,
Il a produit, bon, il était à la base de The Office UK. Le créateur de The Office à la base. Puis il a produit quand même The Office US. J'ai regardé la première saison de The Office US ce week-end. J'ai adoré.
T'as jamais regardé avant ?
J'avais jamais regardé.
C'est fantastique. Hein.
Et c'est en génial. Général, on entend souvent dire que la saison 1, c'est difficile de s'accrocher.
Oh, non, c'est génial.
Mais direct.
Le personnage de Michael Scott est juste formidable.
Même hein, Dwight c'est génial.
Oui, ils sont géniaux.
Enfin, tous.
Ils sont géniaux.
John Krasinski,
c'est génial. Soit. Donc, soit. On a hâte de voir Steve Carell, mais bon, il a signé un chèque de 1 million de dollars par épisode.
Ah ouais.
Pour genre 8 épisodes, il se fait plaisir un petit peu. Mais bon, ils n'ont encore rien écrit. Donc en fait, ils sont arrivés lundi chez Netflix en mode « J'ai une idée, on a été boire un verre dimanche, on a une super idée, 1 million par épisode, ça va ? Ok. » Donc c'est vraiment ça qui s'est passé. Ça,
en
c'est
même temps, t'as le créateur et la star de The Office qui arrive. Peut-être considérer
The Office
la chose.
Qui est une des 2-3 séries les plus regardées sur Netflix, hein, avec Friends.
Est-ce que c'est sur Netflix en plus ?
Oui.
Je vais mettre ça tout de suite dans ma liste.
Donc voilà, donc quand même. Donc on continue les news, hein, on passe maintenant aux choses sérieuses. Lee Unkrich, ouais, je pense que tu dis ça comme ça, qui est le réalisateur entre autres de Toy Story 3 et d'autres films. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me regardes comme ça ?
The Office, c'est pas sur Netflix en Belgique.
Si, sur The Office. Ouais, alors je sais, moi je l'ai vu quelque part. Non, t'es sûr qu'il n'y a pas dessus ?
Bah, j'ai tapé The Office dans la barre de recherche.
J'étais sûr qu'il était dessus, parce que je sais que c'est une des séries qu'il peut regarder sur Netflix. Ouais. Alors peut-être que c'est uniquement au States.
Ça ne pas chez nous. Ouais.
Soit. Et donc, du coup, Lee Unkrich, qui est le réalisateur de Toy Story 3 et d'autres films, hein, il ne me vient pas en tête comme ça, mais il a fait plein d'autres films, Lee Unkrich.
Bah, c'est un des fondateurs oui, de
c'est
Pixar.
C'est un des piliers, quoi. Hein.
Oui, clairement, un des piliers.
Il se casse, hein. Il arrête, c'est normal. Ça fait 25 ans qu'il est chez Pixar. Il veut passer du temps avec sa famille. Bon, ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais du coup, bah, c'est quand même la troisième figure emblématique du studio qui se casse. Il y a John Lasseter,
John Lasseter
qui
bien
est parti.
Sûr.
Et il y a Ed Catmull, qui apparemment est un cofondateur du studio, qui est parti aussi, qui va laisser sa place maintenant. Donc du coup, il y a les trois, entre guillemets, piliers de la boîte qui se cassent. Pour des raisons différentes. Hein. John Lasseter, c'était accusé de comportement déplacé. De son plein gré.
J'ai vu qu'il avait été récupéré par qui l'a récupéré, John Lasseter ? J'ai vu ça.
C'est pas DreamWorks ou un truc comme ça ?
Non.
Un truc un peu plus surprenant. Hein. Je sais que c'était un peu genre what the fuck.
Ouais, ouais.
Ils existent encore, eux, tu vois, genre Digital Bazaar ou un truc comme ça. C'est qui ?
Je sais plus.
Pendant que tu cherches tranquillement. Donc du coup, bah, ça veut dire que...
Chez Skydance.
Skydance, tu vois, ça fait longtemps qu'on ne les a pas entendus.
Boîte de prod de Mission Impossible aussi, hein, Skydance.
C'est vrai. Qui va peut-être se lancer un peu plus dans l'animé, c'est possible.
Mais bon, là, il va s'occuper de l'animation, évidemment.
Oui, c'est ça. Mais donc voilà, ça veut dire qu'il y a du gros changement chez Pixar. C'est un peu normal, hein, le studio doit laisser place à la nouvelle génération. Et on va voir ce qu'ils vont faire. Et aussi, il faut le dire, la Pixar qui avait comme vraiment description avant de faire à chaque fois des films différents... Maintenant, rentrent un peu dans un modèle studio, c'est-à-dire qu'ils font des suites à tous leurs films et ils arrêtent de faire de nouveaux projets. En tout cas, ils le font moins qu'avant.
Ouais.
Et ça se ressent sans doute au niveau du management. Enfin,
en tout cas, partir sur une note comme Coco, c'est plutôt pas mal, hein, parce que c'est lui qui l'avait réalisé.
Oui, c'est ça, voilà.
Et Toy Story 3, je veux dire.
Toy Story 3.
Qui est un des meilleurs Pixar de ces dernières années, pardon.
Alors, on parlait Pixar, d'X-Men rapidement, Dark Phoenix, comme quoi c'est un peu les premiers, enfin les échos disent que c'est un gros four, mais non, il faut savoir d'où ça vient parce que les studios en général cachent bien ce genre d'informations. N'est-ce pas pour Venom, par exemple, ils n'avaient rien dit.
Oui.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les nouveaux mutants, le film, ça fait 2 ans qu'on l'attend, hein, il est prêt, hein, donc il est prêt, enfin, il est quelque part dans une étagère à la Fox. Un film avec plein d'acteurs de séries télé, hein. Je pense qu'il y a comment ça s'appelle encore, Maisie Williams, c'est ça, de Game of Thrones, qui joue dedans. Il y a également un des personnages de Stranger Things qui joue dedans. Donc voilà, un film où un peu plus gore, où ils essaient de faire presque un film d'horreur avec l'univers X-Men.
Bah, en même temps, ils sont arrivés là, au bout là, avec la génération James McAvoy, Fassbender, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a dans le dernier, déjà, c'était dans Apocalypse, hein, qu'il y avait une espèce de transition, déjà. Donc, Bah donc voilà,
ouais, dans Logan aussi, hein, d'une manière ou d'une autre.
Oui, d'une certaine façon aussi.
Et donc là, l'idée, c'est de faire les nouveaux mutants, voilà, un peu la nouvelle génération, mais avec un ton beaucoup plus sombre. Hein. Et ben en fait, bah, apparemment, le film va être encore repoussé. Donc il était prévu, je pense, pour juin ou mai.
Oh, surprise.
Repoussé en octobre-novembre de l'année prochaine. Et, aux dernières nouvelles, il serait peut-être même uniquement en VOD.
Oula.
Donc ça, c'est pour vous dire à quel point l'échec est cuisant, hein, parce que... Si ça va sur Hulu en plus, même pas sur Netflix ou quoi.
Oui, oui, ça c'est...
Donc ça pue vraiment
très, très grave.
L'heure est très grave. Et apparemment, comme tu disais, X-Men Dark Phoenix, ce ne sont pas des meilleures nouvelles. On verra tout ça.
Triste.
Oui, d'un côté, tu peux pas à chaque fois explorer l'univers X-Men. Je crois qu'il faut laisser un peu de temps quand même.
Oui.
Avant de revenir à ça. Et Gambit et tout a été annulé. Hein. Ça, c'était aussi un truc dont on a parlé.
Oui, c'est juste.
Donc ça va mal chez la Fox. Mais Disney arrive bientôt, il n'y a pas de problème. Ils vont relancer ça d'une manière ou d'une autre. Un petit Marvel versus X-Men et on est vite reparti. Dernière info par rapport au film. Donc il y a Jason Reitman qui a dit qu'il allait faire un troisième Ghostbusters.
Oui, alors Jason Reitman, qui est le fils d'Ivan Reitman, qui a créé et réalisé les Ghostbusters.
C'est ça.
Et Jason Reitman, dont le dernier film, The Front Runner,
ne sortira pas
en Belgique.
Malheureusement.
Plus rattrapé en France, sympathique. Possible, mais j'y crois pas trop, nomination pour...
Bah, il le visait en tout cas.
Pour Hugh Jackman, mais je suis pas sûr. En tout cas, il gagnera rien, mais voilà. Petite parenthèse.
Sympa. Merci.
De rien.
Donc, ils vont faire un troisième Ghostbuster, mais vous vous rappelez, il y a 2-3 ans, là, en 2016, ils ont fait un Ghostbuster féminin qui n'a pas très bien fonctionné.
Une purge.
Voilà, qui n'a pas bien fonctionné, hein, non pas parce que c'est des femmes au volant, mais... Le film n'était pas bon, c'est tout. Mais par contre, du coup, maintenant, ils veulent faire un troisième en oubliant ce qui s'est passé dans le 2. Genre, ça n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu de femmes qui ont... Voilà, non, c'est mort. Du coup, ça fait des réactions sur Internet. Hein. Pas mal de femmes disent c'est scandaleux, on donne une chance aux femmes, et après, on les efface comme ça, comme des n'importe quoi. Et c'est Leslie Jones qui a pris Twitter en disant c'est inacceptable. Je trouve que le débat n'a pas lieu d'être. S'ils veulent continuer la saga en changeant de style parce que ça n'a pas fonctionné, voilà, il faut être franc aussi. Il vaut pas.
Pour les studios, on va pas se mentir, la raison principale est pécuniaire. Hein.
Mais oui.
C'est juste que voilà, ça a pas marché. Ils sont pris retour de feu, enfin retour de flamme. Donc voilà.
C'est comme si demain ils voudraient faire Ocean's 14, tu vois.
Ça limite rien à voir avec la qualité.
Ouais, bah oui. Je dis, bah voilà, ils continuent, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Ils ont trouvé un moyen d'amener Brad Pitt et George Clooney, ce qui aujourd'hui serait impensable. T'imagines un Ocean's 14?
Bah, si Soderbergh s'y remet, etc.
Ce serait quand même quelque chose.
Mais ça pourrait être que mieux que Ocean's 8. Hein. Enfin non, George Clooney, il peut pas revenir. Il est mort dans Ocean's 8.
Ah oui, c'est vrai. Ben voilà. Ils vont trouver quelqu'un d'autre. Matthew McConaughey, tu vois.
Enfin bon, ouais, non, c'est dommage. Ghostbusters, franchement, c'était... Enfin, le Ghostbusters de 2016, c'était vraiment pas bon du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc, je trouve ça un peu ridicule, la réaction de Leslie Jones.
Ouais.
Pour le principe, je peux comprendre, effectivement. Mais il y en a plein qui sont dans ce cas-là. Hein, et c'est pas juste une question de femme. Regarde, le pauvre Jeremy Renner, il a fait un Jason Bourne. Boum. Bah non, ils sont revenus aux autres. Bah, c'est comme ça. On allait peut-être lancer une nouvelle franchise avec toi. Ben, c'est pas le cas. C'est comme ça. Il y a des raisons autres que juste le fait que tu sois une femme.
Et pareil dans Avengers. Hein,
c'est triste.
Il joue le personnage de...
Ouais, Hawkeye. Il n'était pas dans Avengers 3. Mais là, c'était des questions de planning. Mais il sera dans le 4.
Oui, mais hein. Il n'a pas de stand-alone. Il n'a pas de film à lui.
Non, mais il n'y a pas
ouais,
de
bon, faire voilà, un stand-alone. Ben oui, mais c'est pas la première fois que ça lui arrive hein, d'avoir un peu ce second rôle.
Il a le
Mission Impossible aussi, hein, il était là.
Des occasions manquées. Ouais, il a raté pas mal de trucs.
Mais bon, voilà.
C'est comme ça.
Pour Jeremy Renner.
Ouais.
Hashtag sauve Jeremy Renner.
Et très honnêtement, je suis très content qu'il fasse pas de suite au Ghostbusters de 2016. Alors, est-ce à nouveau, la question se pose, on le dit à chaque fois, mais est-ce une bonne idée de faire une suite
Attends,
deux premiers Ghostbusters? Ben, on verra bien quand il sortira le film, mais...
Je trouve son tweet vraiment exagéré, quoi. Donc, c'est tellement insultant. Genre, allez vous faire foutre, on ne compte pas. C'est digne de Donald Trump. On va refaire Ghostbusters, ce sera mieux avec des hommes, ce sera énorme. Ces femmes ne sont pas dans Ghostbusters. C'est tellement énervant, un sale coup.
Waouh.
Disons qu'elle ne va plus jamais travailler pour... C'est quel studio qui fait Ghostbusters?
Elle a eu bien un coup de trop. Universal, Sony, quelque chose comme ça.
Elle ne travaille plus pour Universal, alors, dans ce cas-ci.
Je ne sais plus exactement.
Ouais.
Bon, triste. Hein.
Oui, c'est triste, c'est dommage.
Pauvre Leslie.
Oui, mais non, bon, voilà, c'est possible aussi qu'elle a été on lui a promis peut-être quelque chose, peut-être qu'on l'a dit, voilà, le prochain, on le fait avec vous. Enfin, soit, on ne sait jamais ce qui se passe en coulisses, mais c'est quand même pas terrible. Revenons sur un nouveau film. Hein. Ça fait longtemps qu'on parle des infos, là. Nouveau film de la semaine, Ben is back.
Ouais.
Papa Ben Affleck qui est toujours en cure des intox. Mais on parle d'un film avec Julia Roberts et ça fait plaisir parce qu'on ne la voit pas tous les jours sur le grand écran.
C'est vrai.
Un film de Peter Hedges avec Lucas Hedges dans le film. Est-ce qu'ils ont...
Peter est papa de Lucas.
Voilà, un fils à papa. Lucas Hedges...
Enfin, cela dit, le fils est plus connu que le père. Hein.
Ah, oui, là, clairement, il prend de la place.
Lucas, depuis 2 ans...
C'était dans Lady Bird qu'il a commencé un peu à exploser un peu. Il était dedans, non ?
Mais il était dans Three Billboards.
Ah oui, aussi, c'est vrai.
Lady Bird, ouais. Puis là, maintenant, Ben is back. Je l'ai vu. Alors, je l'ai vu dans le film de Jonah Hill qui sortira, je sais pas quand, au mois de mars.
Sur les skaters, là.
Ouais, ouais. Il est dedans aussi. Il a un petit rôle assez sympa. C'est vraiment un des acteurs de la jeune génération montante d'Hollywood.
Avec Sy Rose Ronan, je sais pas quoi, là. Oui.
Mais c'est surtout avec Manchester by the Sea qu'il est.
C'est vrai. C'est vrai.
Il y a 2-3 ans.
C'est vrai qu'il monte bien. Hein.
Donc, ouais. En grosse forme, Lucas, il fait des bons choix.
Ça, c'est sûr aussi. Et donc, voilà, c'est un film qui parle d'un jeune homme de 19 ans qui a une addiction à la drogue et qui lui fait perdre un peu pied. Donc, j'ai l'impression que ça ressemble à un synopsis dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Et donc, voilà, il va rentrer pour...
Tu penses à un film américain réalisé par un...
Oui, Beautiful Boy, un
réalisateur
petit peu,
quand même, flamand.
Hein. Ouais, ouais, ouais. Un petit peu, ça sonne un peu la même chose.
Je t'en dirai plus après.
Il y a 2-3 similitudes.
Vas-y.
C'est ça.
Continue à lire.
Il rentre à Noël pour les fêtes de fin d'année. Hein. Sa mère l'accueille, forcément. Mais bon... C'est un peu un danger. Enfin, je veux dire, c'est compliqué pour elle de gérer cette relation avec son fils, sachant tout ça. Et donc pendant 24 heures, Holly va tout mettre en œuvre pour éviter une imposition familiale par rapport à son fils, parce que je suppose qu'il se drogue pour des raisons dont tu vas nous parler tout de suite, avant que je ne tousse.
Je ne connais pas les raisons pour lesquelles il se drogue, mais à la limite,
mais le style du film,
on s'en fout. Alors en fait, on n'est pas trop dans le film classique, dans le sens où ici, il y a déjà une limite dans le temps bien précise. Donc ça se passe globalement sur 2-3 jours.
Okay.
Donc on n'est déjà pas dans le schéma narratif un peu trop classique à mon goût du « il se drogue, rehab, ça va mieux, et puis boum, rechute,
on a toute
etc. »
la phase du truc. Quoi, hein.
Ouais, un peu comme malheureusement dans « Beautiful Boy », qui n'est pas un mauvais film dans l'absolu, mais voilà. Donc ici, Ben rentre chez lui pour les fêtes de fin d'année. Il a fugué de son centre de réhabilitation. Voilà, il veut juste passer la journée, enfin le réveillon, avec sa famille. Donc il y a sa mère, il y a sa sœur et il y a, je sais plus si c'est sa sœur ou sa demi-sœur. Je pense qu'il a 2 demi-frères et sœurs.
Il est en famille, quoi.
Voilà. Et il y a le compagnon de sa mère. Et évidemment, alors je ne sais plus si ça fait quelques semaines ou quelques mois qu'il est dans le centre de réhabilitation, le centre de désintox, mais ça ne fait pas énormément de temps.
Mm-hmm.
Donc, avoir le fiston qui revient pour passer le réveillon alors qu'il est en désintox, depuis peu de temps en plus, c'est quand même pas idéal. Mm-hmm. Donc, au début, ils veulent le ramener parce que voilà, c'est comme ça. Finalement, ils sont d'accord de l'avoir pour le réveillon et ils le ramènent le lendemain au centre. Ça, c'est le deal.
Mmh.
Et l'accord. Parce que le deal, dans ce contexte, on ne va peut-être pas utiliser le mot. et donc voilà, ils vont passer la soirée ensemble et à un moment, on va dire que le passé d'addict de Ben va un peu refaire surface et va chambouler ce réveillon, cette soirée de réveillon. Et donc, dans le film est structuré en 2 parties. Cette première partie, on a toute la structure familiale, les relations de Ben avec sa mère, avec ses frères et sœurs, et la relation avec son beau-père aussi. Mais c'est principalement celle avec sa mère qui est exploitée et qui, je trouve, très intéressante dans cette première partie de film. À partir du moment où il y aura cet élément déclencheur qui va faire que le film va démarrer sa deuxième partie, je trouve que c'est assez raté.
Ah oui.
En fait, une ancienne relation de Ben va kidnapper leur chien. Donc briser une fenêtre, ouvrir D'accord. une porte, et puis kidnapper le Klebs, quoi. Donc la deuxième partie du film, on est plus dans une espèce de thriller, enfin de film policier, où il cherche le Klebs, quoi. Et malheureusement, je trouve que ça a assez raté. La fin est assez belle, je dois le dire. Un peu tir à l'arme, assez triste. Mais entre ce milieu de film et la fin, bah, y a toute cette seconde partie qui est assez interminable, très lourde, et qui ne raconte pas grand-chose au final. Ça montre un peu de la volonté de chacun des personnages, etc. Mais,
le challenge du deuxième acte, hein, qui n'est pas facile à remplir parfois. Hein,
ouais. Et c'est dommage parce que je trouve que la bonne idée de départ, c'est de faire durer ce film dans un laps de temps précis. On n'est pas sur le truc hyper étendu dont je parlais au début, et donc ça, c'est un choix très intelligent. Malheureusement, je pense que le scénario était un peu trop inconsistant, avec des reins pas assez solides et une intrigue pas assez solide que pour vraiment être réussi. Parce que vraiment, cette première partie, elle est bien foutue, elle est très intéressante, et on s'attend à ce qu'il y ait une deuxième partie, évidemment, un peu différente, parce qu'il faut, il fallait amener le récit quelque part. La direction qu'ils ont choisie est peut-être pas top top, quoi. Mm-hmm. Du coup, c'est un peu long, un peu ennuyeux. Alors pourtant, le duo entre Lucas Hedges et Julia Roberts est vraiment très bien.
Et convaincant, oui.
Ça fait très longtemps que j'ai pas vu Julia Roberts dans un rôle pareil. Et ça faisait plaisir. Mais voilà, j'ai malheureusement pas été plus convaincu que ça.
Ok. Elle avait joué pourtant l'année passée dans Wonder, c'est ça, hein ?
Elle était dans Wonder, c'est vrai. Oui. J'avais oublié ce film.
Avec Owen Wilson,
je crois. Oui, je l'avais déjà évacué de ma mémoire, tu vois.
Tu vois ?
Ouais.
C'est que c'était pas marquant, mais c'était bien.
Je pensais que son dernier rôle, c'était Money Monster, mais non.
Non.
Ouais, oui, il y a eu Wonder, c'est vrai.
Donc voilà, Ben is back.
Un beau film, un peu larmoyant, qui finalement était...
Oui. Voilà. Ben is back, du coup, bah voilà. Premier acte, c'est solide. Deuxième acte, avec ce truc de chien qui est un peu pourri.
Et c'est maladroit. Mais du coup, un petit 2 mitigé, parce qu'il y a vraiment de bonnes choses. Il y a de très bonnes idées. Il y a de l'ambition. Mais qui va pas au bout de. Enfin voilà, ils vont pas. Peter Hedges va pas au bout de son ambition.
Ouais.
Et donc c'est parfois un peu compliqué, quoi. Et c'est décevant pour cette fin. Mais voilà, l'exercice a été tenté. Il y a des choses qui sont réussies, d'autres moins. Donc, on n'est clairement pas dans un film honteux. Je pense que ça vaut la peine de le voir parce qu'il y a vraiment des bonnes choses dedans. Mais voilà, bon, ça m'a un peu laissé sur ma faim, cette deuxième partie, malheureusement.
Écoute, bah oui.
Mais c'est quand même à 2 étoiles. C'est pas mal.
Est-ce qu'on ne parlerait pas, avant de juste parcourir toutes les sorties de la semaine, hein, puisque tu l'as vu, parler des petits flocons ? Rapidement, alors Les Petits Flocons, c'est un film de Joséphine Demeau, avec
Joséphine Demeau. C'est celle qui criait, qui faisait l'hystérique dans Nos Jours Heureux, tu vois, la mono.
Je vois.
Celle qui criait au petit gosse là, qui la faisait chier, tu sais, cette scène autour de la piscine là. Mm-hmm. Tu me fais chier, t'es qu'un petit con, tu seras rien. Voilà, c'est elle. Hein. Comme ça, les gens vont replacer.
Ok, ok. Mais quand même, avec Grégoire Ludwig, Gustave Kervan, c'est pas mal. Concrètement, c'est des vacances à la montagne. Hein. Ouais. Des gens qui ne peuvent pas spécialement skier. Jambes fracturées, c'est ça, non ?
Alors, elle joue une mannequin de jambes. Une mannequin jambes. Donc, quand t'as besoin d'une belle paire de jambes.
Un peu comme une figure cube, figure jambes, quoi.
Pub, j'allais dire une puce. Quand t'as besoin d'une belle paire de jambes pour une pub. Et ben c'est elle que tu contactes, voilà. Et donc genre style pour un rasoir, hein, ou une robe, ou voilà, enfin une jupe, bref, t'as compris, ou
des chaussures, oui.
Voilà, arrête de citer des marques tout le temps.
Vénus plutôt,
bref. elle est mannequin jambes et elle a une flébite. Donc skier avec une flébite, c'est no way. Alors Grégoire Ludig, il fait le père de la famille, je sais plus ce qu'il fait dans la vie, et très franchement on s'en fout. Gustave Kervern, il incarne un prisonnier, un type qui sort de prison, et que le personnage de Joséphine Demeau allait visiter, en fait, parce qu'elle est aussi visiteuse de prison. Voilà. Tu sais, t'as des gens, ils ont pas de famille, bah, y a des gens, des inconnus, ils vont leur rendre visite. Voilà. Ma grand-mère a fait ça pendant des années. Ouais.
Bah, j'ai beau.
Tu rencontrais quand même des cas.
Ah oui, tu dois avoir des gens particuliers.
Bah, qui avaient du vécu. Hein. Et puis il y a les deux enfants, et la fille, elle est amoureuse de son mono de ski. Et Joséphine, quand elle était petite, bon, c'est pas son prénom dans le film, je sais plus son prénom dans le film, mais elle était aussi amoureuse de son mono de ski. Donc ça fait un petit syndrome. Et donc en fait, ce sont tous des gens en problème. Il y a des problèmes de couple parce que déjà elle a du problème, elle a des soucis, elle peut plus bosser. Elle a une phlébite, elle a une jambe comme une cuisse de porc. Donc forcément, ça va pas. Donc
Qui se donne faim.
son boulot ça va pas. Ça, vu qu'elle est de retour au ski, elle repense à son mono de quand elle était petite. Ça la rend dingue. Forcément, son mari Grégoire Ludig, il en peut plus parce qu'elle devient hystérique, impossible à vivre. Ils sont en vacances, hein. Donc
À la base, oui.
génial. Le garçon, son copain l'a largué. Il est triste. Et la petite fille, bah voilà, elle est amoureuse de son mono et sa mère s'en rend compte et du coup elle va la changer de groupe.
En gros, c'est le bordel familial à
Mais oui,
montagne,
bordel
voilà.
familial. Alors en plus, quand t'as Alex Stollard qui se pointe dans l'appart à la neige, hein, à la montagne, donc c'est
Donc
pas
c'est
grand,
petit,
hein.
ouais.
Grosse ambiance, quoi. Et voilà.
Mais t'en parles
Grosse
positivement, on a
ambiance.
l'impression que c'est sympathique.
Grosse ambiance dans la salle aussi. Non, mais alors le problème, c'est que c'est absolument pas drôle, c'est censé être une comédie. C'est pas drôle, c'est très très lourd. Il y a rien qui fonctionne, quoi. Hein. Dans la structure narrative, dans les blagues, c'est flop sur flop, quoi. Et Joséphine Demeau, il faut qu'elle arrête de faire l'hystérique, là, c'est insupportable. Vraiment, au début, tu te dis juste, ouais, bon, c'est gentil, c'est classique, ça me fait juste un peu chier. Puis plus le film avance, plus tu te dis, mais en fait, il y a rien qui fonctionne. Les personnages, ça va
C'est du vent,
pas.
quoi.
Les différentes scènes, les péripéties, ça va pas du tout. Le montage, ça va pas. Enfin bref, il y a pas grand-chose qui fonctionne, très honnêtement. Les comédiens sont pas mal. Hein. Grégoire Ludig est plutôt bien. Gustave Kervern, il fait du Gustave Kervern.
Oui.
Voilà, t'aimes ou t'aimes pas. Mais voilà, non, il y a pas grand-chose qui fonctionne dans ce film, quoi. Et c'est assez dramatique à ce stade-là.
Ben écoute, c'est fort dommage, hein.
Je ne lui donnerai pas d'étoile.
En tout cas, on parlait aussi il y a pas longtemps, je pense, des affiches de comédie française qui sont toujours bleues avec une écriture jaune. Cette fois-ci, ils ont pas mis l'écriture jaune, hein, ils ont
Allez
mis
voir
en
le
blanc.
stagiaire des affiches si vous ne connaissez pas sur Internet, sur
C'est
Facebook,
intéressant,
sur Twitter,
c'est ça.
c'est très drôle.
Tout à fait. Ou un
Voilà.
créatif sur YouTube
Et
aussi.
si jamais celui qui gère cette page, qui est un ami, je tiens à le saluer, il tient aussi une page, un compte Twitter où il parle de belles affiches, des vraies, tu vois.
Ouais.
L'âge d'or des affiches, les
Les affiches qui claquent.
styles les affiches Indiana Jones, etc., etc., quoi. Donc des trucs qui ont vraiment de la gueule. Donc allez voir Stagiaire des affiches, et puis vous trouverez le lien vers les autres trucs.
Écoutez,
C'est très très bien.
on termine par un tour des films.
Bah ouais.
Faisons ça. Premier film qui sort donc du coup le 23 janvier cette semaine, c'est L'Ordre des médecins avec Jérémy Renier, entre autres de David Roux. On dirait un film basé sur
Bah, t'as l'impression que c'est un film de Thomas Lilty, vas-y, dis-le.
Oui, c'est
Hein?
ça.
Voilà.
C'est très similaire à ce qu'on a pu voir dans Hippocrate ou autre. Sauf que Jérémy Renner n'a pas 27 ans.
Mais il paraît que c'est très bien. J'en sais pas beaucoup plus, mais j'ai entendu de bons retours. Voilà.
Pourquoi pas? Apparemment, les médecins, c'était la mode hein, depuis quelques années. Ben is back, donc du coup, de Peter Hedges avec Julia Roberts. Tu l'as dit, ça fait plaisir de voir Julia Roberts dans un rôle comme ça depuis un petit temps. Par contre, le film a ses défauts. Du coup, c'est 2 étoiles. Double vie de Olivier Assayas avec Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, etc. C'est un peu un truc intellectuello-parisien qui veut se faire drôle. C'est 1 étoile. Je crois que je résume bien.
Ouais.
Le rat Scélérat, un film d'animation.
Scélérat,
Scélérat.
hein?
Scélérat. Il est l'heure de manger hein, pour moi. C'est... Il devient tard, c'est l'heure de la pampasse. Le rat, c'est les rats. Film
Même
d'animation.
parle plus de viande là tout de suite, s'il te plaît.
Film d'animation de. Du coup, assez court, hein, 42 minutes, c'est un moyen métrage. Faites sortir les figurants de Sanaz Azari, un documentaire.
Ok.
Voilà. The Mule avec Clint Eastwood. Et de Clint Eastwood, ça c'était 3 étoiles, avec un petit retour en force de Clint Eastwood après un petit passage à vide, il faut le dire. Border ou Grants de Ali Abbasi avec Eva Mélander, un drame thriller, je pense que c'est suédois.
Tout à fait, c'est celui qui représente la Suède aux Oscars.
Et un film qu'on n'a pas vu, c'est dommage parce que je pense que il a un bon buzz autour de lui, en tout cas j'ai vu que sur Rotten Tomatoes, il est coté parmi les 20 meilleurs films de l'année 2018
D'accord.
aux États-Unis. Donc,
okay.
The Hate You Give, un film américain, un drame de George Tillman avec Amanda Seyfried.
Je crois qu'il y a un petit côté Fruitvale Station, c'est ça.
Ouais, ouais, on dirait un peu, okay. Tu sais, un film sur un désastre qui se passe dans une communauté noire aux États-Unis, et ouais. Voilà, un peu le même genre de truc. Et Les Petits Flocons, forcément, de Joséphine Demeau. Voilà, on va pas en parler longtemps.
Non. Et enfin.
C'était quoi encore ? T'as donné un flocon ou un ourson ? Qu'est-ce que t'as donné pour ça ?
Ouais. Encore un ourson, c'est cher payé.
Non, moi j'ai eu l'ourson, je fais que.
Ouais, moi j'ai eu deux étoiles, j'ai le niveau. Deux étoiles éternelles. Tu
vois. Je suis tombé trois fois dans ma descente pour avoir le prix. Et du coup, tu sais, à la fin, il y avait trois personnes dans la classe qui ont eu les oursons. J'étais dedans.
Pas mal.
Ça va, maintenant je me suis rattrapé, je sais ce qui est.
C'est bien.
Mais et.
Faudrait pas oublier le dernier film, parce que certes, il est déjà oui, sorti.
C'est ce que j'allais dire. Ah. C'est une réédition. D'accord ? 25e anniversaire. Ils avaient fait ça avec E.T. pour le 20e anniversaire. Maintenant, ils font ça avec la.
Et je l'avais vu quand j'étais petit. Moi, j'avais moi aussi, j'étais voir le 2000, j'avais été le revoir.
La liste Schindler. Alors, c'est moins. C'est pas la même ambiance, hein, qu'on se le dise tout de suite.
La liste de Schindler. La
liste de Schindler, Schindler's List. Voilà.
Rien à voir avec les ascenseurs.
Non. Non, c'est un peu moins drôle, quand même, pour le dire. Même si l'ascenseur, c'est pas très drôle non plus. Mais. Ça sort en fait ce week-end, le 27 janvier, c'est un peu la date officielle. Réédition du film pour le 25e anniversaire, 3h15. Il faut le dire pour ceux qui ne l'ont pas vu. Enfin, mais.
Bon, chef d'œuvre absolu. Hein,
c'est un film, alors là, c'est si vous êtes un minimum intéressé par le cinéma.
Il faut l'avoir vu.
C'est un must-see, un peu comme Bienvenue chez Ch'ti. C'est dans la.
Il va sans dire que je vais aller le revoir si j'ai l'occasion.
Oui.
Bon, il n'est pas très bien distribué encore, hein, mais bon.
Un film où Liam Neeson n'a jamais été meilleur.
C'est vrai.
Il faut le dire.
C'est vrai.
Il est bon, grand, Taken, etc., mais c'est pas la même chose. Ouais. Donc voilà.
Et là, pour le coup, c'est « I will find you and I will save you ».
C'est ça, je te mets sur ma liste.
Ouais.
C'est un peu comme un mec qui recense les gens en boîte, tu vois. T'es sur ma liste ? Non, je rigole, c'est une blague. Bon, c'est sur cette belle parole
qu'on termine.
Oui, tant que je mange un steak. Sur cette belle parole, on termine l'émission. Excusez-moi, j'avais ma table. 18 de la saison 2 de Cinécast.
Déjà.
On se dit à la semaine prochaine, comme d'habitude.
Oui. Bah, moi, je serai là. Tu seras là ?
Je serai là. Et d'ailleurs, en fait, si je me rappelle bien, la semaine prochaine, on a l'épisode classique.
Ouais.
Et puis, on va au Magritte.
Ah ben oui, tout à fait.
Donc, attendez-vous à avoir deux, trois trucs, un peu des Magritte. Je ne sais pas très bien comment on va s'organiser. Ça risque d'être un peu backstage access, mais ça va être sympa.
Ben, à mon avis, on aura des petits extraits, voilà. Des petites interventions des lauréats. Voilà.
On enregistrera peut-être un peu aussi ce qu'on pense de la cérémonie.
Ouais.
Avec...
Enfin non, ça on fera pour l'épisode d'après.
Après, voilà. Mais bon, en tout cas, il y aura peut-être 2-3 interviews avec des gagnants,
ouais.
Des perdants éventuellement aussi. Ce sera intéressant. On se dit du coup la semaine prochaine, en attendant.
Moi je serai là.
Ok,
allez,
ciao, ciao, des bisous.